soir, après l'Assemblée nationale, le Sénat a autorisé ce lundi la prorogation de l'état de siège en Ituri et dans la province du Nord Kivu. Au cours de cette plénière, les sénateurs ont autorisé à l'unanimité et pour la quatrième fois consécutive le chef de l'État de proroger pour 15 jours l'état de siège décrété dans les deux provinces de l'Est du pays. Cependant, le week-end dernier, plusieurs députés ont déclaré que l'autorisation de la prochaine prorogation sera conditionnée par une évaluation conséquente des résultats de l'état de siège dans les deux provinces. Sur le terrain des opérations, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, est arrivé à Beni samedi 17 juillet, où il a installé son quartier général afin de suivre de près les opérations contre tous les groupes armés et principalement les ADF. Que pensez-vous de l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et en Ituri, 3 mois après le début de l'état de siège? Nous en parlons ce soir avec Ayobangira Safari. Il est député national élu de Massissi au Nord Kivu. Ayobangira Safari, bonsoir.
Bonsoir.
Maître Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Jacquemin Chabani, bonsoir.
Bonsoir.
Et Edgar Matesso, il est vice-président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Edgar Matesso, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs et aux co-débatteurs.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Okapi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Gaston Bilambo. Moi je pense plutôt qu'il a fallu d'abord commencer par l'évaluation des résultats obtenus depuis que cet état de siège a été décrété. C'est là pour éviter d'aller de prorogation en prorogation sans aucun impact visible. Je souhaiterais que des mesures concordantes accompagnent cette prorogation. Et pour y parvenir, le plus important serait de bien équiper les militaires qui sont sur terrain et veiller surtout à l'effectivité de ces opérations. Car il nous semble paradoxal de constater que malgré cet état de siège, la population ne fait que périr. Yves Djamugisa de Bounia en Ituri, l'évaluation de l'état de siège en Ituri est négative car il n'y a pas de différence entre le gouverneur civil sortant et le gouverneur militaire qui gère actuellement cette province. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sous la 104.9 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Je l'ai dit, après l'Assemblée nationale, le Sénat a également autorisé hier lundi la prorogation de l'état de siège en Ituri et dans le Nord Kivu. Convoqué en session extraordinaire, plus de 77 sénateurs ayant pris part à cette plénière ont adopté en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du pays. Réagissant à cette quatrième prorogation de l'état de siège, le député national Ayobangira Safari affirme que les députés nationaux risque de ne plus autoriser prochainement une énième prorogation si une évaluation conséquente des résultats de l'état de siège n'est pas faite. Il demande au gouvernement de profiter de cette quatrième prorogation pour lancer des opérations de grande envergure contre les forces négatives. On l'écoute au micro de Michel Kifinda.
Nous allons pratiquement au troisième mois avec une quatrième prorogation que nous venons d'accorder. Hélas, nous ne voyons vraiment pas de résultats. Nous avons fait remarquer au gouvernement que nous ne pouvons plus procéder à d'autres prolongations tant qu'une évaluation préalable n'est pas faite et que des signaux positifs nous indiquent que nous sommes sur la bonne voie. Nous osons espérer que le gouvernement mettra en profit cette prorogation pour se rattraper en dotant nos voyants FADC de la logistique conséquente, d'une prise en charge efficiente de tous les soldats engagés dans les différentes zones opérationnelles.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dima, a installé son quartier général à Beni depuis samedi dernier. Ce dernier affirme que c'est pour suivre de près les opérations contre tous les groupes armés et principalement les ADF. Le lieutenant-général Constant Dima, gouverneur du Nord Kivu, l'a dit au micro de Grâce Hamzati.
Le gouverneur des provinces souligne que la période passée à Goma lui a permis de faire la planification des opérations. Et cette planification étant terminée, il vient s'installer à Beni pour suivre de près le déroulement des opérations. Lieutenant-général Constant Dima.
Le commandant des opérations, quand il s'approche des opérations, il vient booster les choses, il vient à côté des militaires rehausser leur morale. Mais il ne fera pas seul, il fera avec vous tous, avec toute la population qui doit être derrière son armée pour que cette fois-ci, il est temps de construire la paix. Même si tous les défis ne sont pas encore réglés, mais je vous dis, il fallait que j'attende de monter en puissance. Maintenant, je viens m'installer.
Les forces vives saluent cette annonce de l'autorité provinciale de s'installer à Beni et lui proposent de relever certains défis majeurs au sein de l'armée afin que la population puisse recouvrer cette paix tant attendue. C'est notamment l'identification des effectifs militaires au front. Van Germé Katiwa est le premier vice-président de la société civile de Butembo.
Que cela fasse aussi son cheval de bataille, l'identification des effectifs sur le terrain pour comprendre et identifier des éventuelles infiltrations au sein de l'armée. Il y a aussi un problème de la motivation des éléments sur le terrain parce qu'un militaire au front dont la situation financière n'est pas améliorée, il y a toujours un problème.
Notons qu'avant la ville de Butembo, puis Beni, sa destination finale, le gouverneur Constant Dima était passé la veille par les territoires de Lubero, Butembo, Grâce, Hamzati, Radio Kapi.
Ayo Bangira Safari, vous êtes député national élu de Massi. Ici au nord Kivu, vous avez réagi après la quatrième prorogation de l'état des sièges. Vous avez affirmé que les députés nationaux risquent de ne plus autoriser prochainement une énième prorogation si une évaluation conséquente des résultats de l'état des sièges n'est pas faite. Pourquoi cette déclaration seulement à la quatrième prorogation? Pourquoi vous ne l'avez pas proposé, par exemple, avant la deuxième prorogation?
Bon, en fait, d'abord, il faudrait savoir que nous, les députés du Nord Kivu et de l'Ituri, nous avons vraiment besoin, nous avons milité afin qu'il y ait un état de siège. Et moi, j'ai fait même une demande, un communiqué bien avant, depuis 2020. En janvier, en 2020, j'avais dit qu'il fallait qu'on puisse mettre Beni sous état d'urgence. Et le président qui décide a décidé que vous puissiez faire l'état de siège, que ce soit Beni à Ituri, c'est une bonne chose. Mais les résultats ne viennent pas. Et ce qui nous a vraiment frustré, c'est lors de la plénière, on a remarqué une certaine légèreté au sein même des membres du gouvernement. Ils sont venus avec une copie. Donc ils ont pris juste le texte qui avait été utilisé pour la prorogation, la troisième. Ils ont fait juste une photocopie, ils ramènent le même texte. Ça, ça montre vraiment une légèreté et ça nous préoccupe parce que au niveau même du terrain, les résultats, en fait, ils ne suivent pas. Et si on voit alors la légèreté avec laquelle même les gouvernements viennent demander une prorogation, c'est que y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il est temps qu'on puisse prendre un petit peu pied d'arrêt, qu'on puisse voir comment évaluer et savoir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Et là où il y a alors à corriger, on corrige. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement à réussir la mission. Nous sommes là pour accompagner le président à réussir la mission qui est de pacifier l'Est. Parce que nos populations ont trop souffert et ça nous énerve, ça nous fâche de voir que les personnes qui sont habilitées, qui sont là à gérer l'état de siège au niveau du gouvernement, ne suivent pas, ne sentent pas, on ne sent pas en eux la gravité. Et autre chose aussi, l'état de siège devait être suivi, devait être accompagné par un renforcement des FADC, que ce soit en logistique et que ce soit en prise en charge, mais là, rien n'est fait. Nous voyons actuellement des gouverneurs militaires, mais qui sont en train de se transformer en gouverneurs économiques. Ils sont en train d'instaurer des taxes et des taxes. C'est ce qui montre qu'ils n'ont encore rien reçu des conséquences de la part du gouvernement. Et nous ne pouvons pas leur permettre qu'on puisse prendre une décision aussi forte qu'un état de siège qui prive les populations de certains droits, de certaines libertés et qui en contrepartie, mais rien n'est fait pour qu'on puisse réellement voir que le gouvernement est mobilisé pour accompagner les FADC, pour accompagner la population afin que l'état de siège puisse être réduit au minimum.
Alors, Ayo Bangira Safari, peut-on conclure que 3 mois après le début de l'état des sièges, les bilans est négatif?
Bon, le bilan est, on peut dire que le bilan est mitigé. le bilan n'est pas à la hauteur de nos espoirs. C'est vrai, il y a eu quelques rendus, il y a eu quelques opérations, mais ces opérations ne sont pas à la hauteur des opérations que nous attendions. Nous nous attendions à voir vraiment des opérations de grande envergure, là où les groupes armés n'auront aucun répit. Mais nous voyons que il y a eu des rendus, c'est vrai, comme à Masisi, il y a eu une affaire de 70 rendus, une centaine, mais avant ça, il y a eu plus de 4000 qui sont encore entrés en bourse. Donc si on doit faire la différence entre 4000 et 70, le chiffre est totalement négatif. Et même au niveau de Beni, même au niveau de l'Ituri, il y a eu un drame au niveau de l'Ituri à Komanda. Là, on a vu des civils s'entretuer devant des militaires FARDC qui étaient passifs. Tout cela ne devrait pas être fait durant l'état de siège. Durant l'état de siège, les militaires FARDC sont supposés avoir toute la latitude, toute la force pour imposer la paix. On n'est plus au moment de négocier la paix. On est là pour imposer la paix. Et le résultat actuellement, réellement, ça n'a rien à voir avec ce que nous attendions en état de siège. Il faut alors qu'on puisse se donner réellement les moyens de l'état de siège, ou soit qu'on retourne aux opérations normales, parce que à l'époque du M23, il y a eu les feux et Mamadou, les Baouma, qui ont pu vaincre les M23, qui ont commencé aussi à vaincre les ADF, mais sans état de siège. Donc, il ne faut pas qu'on prive les libertés civiques aux populations et aux autres, et en contrepartie, rien de sérieux ne suit.
Vous demandez au gouvernement de profiter de cette quatrième prorogation pour lancer des opérations de grande envergure contre les forces négatives. Est-ce que cela veut dire que selon les infos que vous possédez, les opérations de grande envergure n'ont pas encore été lancées depuis l'instauration de l'état de siège dans les deux provinces, Nord-Kivu et Ituri?
Non, selon les informations qu'on a qui viennent de Beni, nous ne sentons pas, nous ne voyons pas, nous n'avons reçu aucun témoignage en termes d'opérations qui diffèrent de celles qui se menaient avant. Et pour ce qui est de Masisi, il y a des opérations qui se font dans une partie, dans le secteur de Osso, vers les environs de Nyabiondo, mais tout ça, ce sont toujours des opérations comme ça se faisait avant, il n'y a aucun changement, aucun changement. Et les peu de... Et le peu de miliciens qui se sont y rendus, ils se sont rendus suite à la sensibilisation. Ce n'est pas suite à la pression. Donc il faudrait qu'on puisse voir vraiment les militaires FARDC venir en force et imposer la paix, et aussi essayer de se différencier de la façon dont ils ont eu à gérer les opérations. Voir un militaire FARDC qui n'est pas approvisionné en nourriture, en ambu, en armement, en solde, cela ne devrait pas être... ce n'est pas cela que nous attendons. Nous espérons qu'avec un état de siège, que tous les efforts, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau de la population, que tous nos efforts soient concentrés afin qu'on puisse vraiment mettre fin à cette tragédie le plus tôt possible. Mais actuellement, à ma connaissance, vu la tendance qu'on a au niveau de, que ce soit à Bounia, que ce soit à Goma, on est en train de voir qu'ils sont en train d'instaurer des taxes spéciales pour le soutien à l'état de siège. Non, c'est le gouvernement central qui devrait mobiliser tous les fonds nécessaires pour appuyer les FARDC afin que cela puisse mener les opérations réellement au niveau de ce que la population attend.
Mais qu'est-ce que le gouvernement dit par rapport aux moyens qui manquent pour accompagner cet état de siège?
On ne saurait pas le dire parce qu'on a Et jusqu'à présent, on n'a pas eu à échanger, à faire une évaluation. Nous supposons qu'à travers l'évaluation, ils auront alors à nous montrer qu'est-ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose, mais qu'on n'est pas leur réformé. Mais sur le terrain, les résultats ne viennent pas. Et nous leur accordons encore une quatrième prorogation et nous espérons qu'ils vont mettre cela alors à profit. Ils vont mettre ça en profit pour nous montrer que réellement, ils traitent ces problèmes de Beni, de l'Ituri à la hauteur des enjeux, à la hauteur de la gravité, à la hauteur des attentes de la population et des élus.
Ayo Bangira Safari, il y a cet auditeur David qui nous écrit depuis le Maniema. Il dit ceci: depuis l'annonce de l'état de siège jusqu'à aujourd'hui où on veut proroger pour la quatrième fois, je ne vois pas un bilan largement positif de celui qu'on constatait avant même le lancement de l'état de siège. La situation sécuritaire demeure précaire. Par ailleurs, nous constatons que les parlementaires laissent la voie libre de la prorogation de l'état de siège sans faire une évaluation qu'il faut au préalable. C'est qu'on devrait faire normalement après chaque fin de l'état de siège avant de proroger. Voilà.
Bon, il faut savoir qu'en fait, les parlementaires nous avons eu aussi à prendre une position claire. Hein, parce que vous savez que le gouvernement nous avait apporté une loi afin qu'on puisse l'habiliter lui-même à prolonger l'état de siège, chose que nous n'avons pas pu accepter parce que nous, en tant qu'élus, en tant que représentants du peuple, nous avons eu à recevoir ces feedbacks, ces plaintes de la population en disant qu'elle ne voit pas les effets de l'état de siège, elle ne voit pas de résultats, elle ne voit aucun espoir. Et nous, nous devions alors nous mettre ensemble avec le gouvernement. On a demandé à ce qu'il y ait une évaluation et le gouvernement est venu, il a demandé une prorogation. On l'a fait comprendre que c'est la dernière fois qu'on puisse faire une prorogation tant que soit qu'il n'y ait pas une évaluation ou soit qu'on ne voit pas de résultats. Mais si demain on trouve des résultats, on voit que réellement on trouve des témoignages qui viennent de la population, de la base, en disant que réellement ils sont en train de voir les choses qui changent, tant mieux. On n'a pas besoin juste de discuter avec le gouvernement. On n'a pas, on ne sommes pas dans une position en fait de confrontation. Nous sommes là pour aider le gouvernement à faire son travail. Et faire le travail, c'est de répondre aux soucis, aux lamentations, aux plaintes que nous recevons et qui viennent de la population. Et l'auditeur d'Imaniema a tout à fait raison. C'est le même message que nous recevons chaque jour, que ce soit de Massissi, que ce soit de Beni, que ce soit de Ituri. La population sur terrain ne voit aucune différence par rapport aux opérations qui se faisaient avant l'état de siège.
Sur les terrains des opérations, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, est arrivé samedi à Beni où il a décidé d'installer son quartier général afin de suivre de plus près les opérations contre tous les groupes armés et principalement les ADF. Vous pensez que ça pourrait motiver les militaires qui sont au front ou encore dissuader tous ces groupes armés qui sèment la terreur au sein de la population?
Bon, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. C'est au moins quelque chose qu'on peut voir de positif, qui va dans le sens de notre demande, à ce qu'on puisse sentir que réellement, il y a alors un intérêt prononcé et on se focalise sur les dossiers. Et le grand problème qu'on a au niveau de Beni, c'est les dossiers des ADF. Alors, lorsqu'on a nommé le gouverneur, que ce soit à Goma, que ce soit à Bunia, ce sont des gouverneurs militaires, mais avec des adjoints qui sont des policiers. Un militaire est fait pour faire la guerre. Et la guerre, c'est fait là où il y a les opérations, c'est au niveau de Beni. Donc, nous ne pouvons que nous réjouir de voir que le gouverneur a décidé d'aller à Beni et de laisser le policier et son vice à Goma pour suivre l'administration. Mais cela n'est pas ça la solution en soi. Il a besoin d'avoir aussi une certaine logistique, un appui. Il ne faut pas qu'il soit à Beni, mais lorsqu'il a besoin de déplacer des troupes, à lever des troupes d'une zone à une autre, qu'il manque des carburants. Donc il faut aussi qu'il ait aussi les fonds avec lui. Donc c'est vraiment une bonne chose, mais que le gouvernement aussi puisse aussi l'accompagner avec la logistique et les fonds.
Maître Jacquemin Chabani, président de la commission électorale permanente de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous êtes avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Vous avez suivi le député Aobangira Safari qui estime que la prochaine prorogation sera conditionnée par une évaluation conséquente des résultats de l'état des sièges dans les deux provinces parce que actuellement on constate qu'il n'y a pas d'évolution, qu'on n'a pas les résultats qu'on attendait. On sent une certaine légèreté au sein des membres du gouvernement par rapport à cette situation du Nord Kivu et de l'Ituri. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne peux qu'encourager l'honorable député que je salue en passant et l'Assemblée nationale à faire son travail de contrôle et de suivi des actions du gouvernement. Donc cela est non seulement légitime, mais c'est un devoir et une responsabilité de leur part. Mais aussi, je voudrais de souligner que peut-être que les résultats attendus par les uns et les autres sont aussi justifiés, légitimes, parce que la douleur, la souffrance et les difficultés dans lesquelles la nation congolaise et les populations de l'Est se trouvent depuis plus de 20 ans à travers toutes ces insécurités, ces groupes armés qui distillent toutes ces souffrances, a tellement duré que tout un chacun attend et estime que ça doit cesser maintenant, hic et nunc. Mais à la réalité, je crois que nous devons tous aussi arriver à comprendre que tout cela, ce n'est pas une décision prise par le président de la République de mettre ces deux provinces en état de siège qui vont faire que du tic au tac, la paix va revenir. C'est tout un travail, c'est toute une logistique à mettre en place, c'est un certain nombre d'actions et de programmation d'actions militaires qu'il faut mettre en action. Mais à cela aussi, il ne faut pas oublier que le gouvernement de la République a décidé à lever l'option que les actions militaires devront être accompagnées par des actions de discussion, de dialogue, de conscientisation et de sensibilisation, de mobilisation des forces vives de la nation en direction de ces groupes armés, de ces groupes négatifs nationaux pour leur démobilisation. Donc il y a le DDRC recréé par l'ordonnance du président de la République qui va se mettre en action et en fonction très prochainement dès que les nouveaux animateurs seront connus et seront mis au travail. Donc c'est tout ce mécanisme-là qui va nous amener à avoir très bientôt ici des résultats palpables. Donc par là,
mais trois mois après, Jacquemin Chabani, on sentira quand même un changement positif sur le terrain, un changement positif de la situation. Lorsque vous suivez, même les auditeurs qui réagissent, tous disent presque la même chose. Il n'y a pas d'amélioration de la situation sécuritaire. La situation est pire qu'avant. Comment on peut expliquer ça?
Les résultats sont là. Les résultats sont là. Je vais même me priver de les énumérer parce que toute personne qui dit qu'il n'y a pas de résultats les énumère. L'honorable député, mon co-débatteur, vient dans les incertain. Des groupes qui ont quitté la brousse, qui se sont désarmés, qui ont rejoint les camps de démobilisation, les résultats sont là. Certaines victoires de nos forces armées font partie des résultats. Certaines attitudes agressives, certaines attaques des groupes négatifs font aussi partie des résultats. C'est les nouvelles dispositions et les nouvelles position des forces armées congolaises qui mettent en déroute des forces négatives dans les ADES, qui les ont poussées à poser certains actes encore plus cruels. Ça fait partie des résultats.
Mais entre-temps, la société civile qui est sur place, qui vit avec la population, je prends en exemple l'Ituri, où la société civile déplore la persistance de l'insécurité à cause de l'activisme des groupes armés pendant cette période d'état de siège.
Oui, c'est ce que je suis en train de justifier. Cela est tout à fait normal parce que on ne peut pas concevoir que la proclamation d'état de siège allait à elle seule mettre fin à toute cette insécurité-là. Moi, je dis que c'est un processus. Dieu merci, le gouvernement de la République a pris la responsabilité de lever cette option courageuse qui était une demande de toutes les forces vives de la nation de la partie orientale. Le président de la République était dans la province du Nord-Kivu au mois de septembre de l'année passée. C'était la grande réclamation. Il a pris le temps d'analyser et d'étudier la question. La décision a été prise. Maintenant, nous sommes dans l'action. Et dans cette action-là, moi, je dis que ce n'est pas en deux mois qu'on aura un résultat. Mais je dis aussi qu'il est important que nous puissions tous suivre de très près. Et j'encourage l'Assemblée nationale et les députés de bien suivre tout cela de très près pour accompagner ce processus-là. Ce que je peux dire en résumé, c'est qu'on ait un peu de patience et qu'on arrive à comprendre que ce qui s'est construit comme désastre, comme cruauté, comme criminalité en à peu près plus de 20 ans ne peut pas se terminer en un mois, deux mois, trois mois ou même 4 mois.
Jacquemin Chabani, son moyen pour accompagner cet état de siège, comme l'a dit le député Ayo Bangira, pensez-vous que l'objectif de l'état de siège sera atteint?
Les moyens sont là. D'abord, il faudrait qu'on arrive tous à comprendre que ce sont des questions extrêmement sensibles et stratégiques. Nous sommes sur les ondes, les ennemis captent les ondes de Radio Okapi, ils nous suivent de très près pour savoir exactement ce que l'on fait. l'honorable député qui a la responsabilité républicaine de suivre tout ceci, je crois qu'il pourra faire un débat utile au sein de la commission défense et sécurité pour en savoir un peu plus. Mais les moyens sont là, le président de la République s'est déplacé lui-même et a tenu plus d'une dizaine de réunions de conseil de sécurité aux différents endroits où il a séjourné, à Goma, à Beni, à Butembo et à Bunia, où les questions de moyens, de stratégie, de logistique ont été mises sur la table. Je crois qu'il est connu de tout le monde qu'un contingent assez important de nos vaillants militaires a fait la province orientale en appui vers Bunia. Donc toutes ces stratégies-là sont nécessairement mises en place. C'est vrai que tout ceci se fait pendant l'exécution de l'état d'urgence. Je crois qu'on jugera au résultat. Toute personne expérimentée dans ces questions de stratégie militaire pourra nous dire de la façon la plus aisée possible que ça ne peut pas se résoudre en 2, 3, 4 mois.
Edgar Matesso, vice-président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, votre lecture par rapport aux propos du député Ayobangira Asafari qui suggère qu'une évaluation soit faite avant la prochaine prorogation.
Oui, merci madame pour la parole. En fait, avant de commencer, je vais présenter les condoléances de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu à toutes les victimes de ces tueries. Et ici, je vois de manière particulière les victimes du 16 juillet à Kalunguta, où nous avons perdu le président de la société civile lors de l'attaque des ADEF. Je vois ici l'attaque d'hier même, le 19 juillet, qui a été menée par les groupes qui sont en Ituri, dans la localité de Batonga, dans le groupement de Danyari Tchabi. Et donc, vous comprenez que les atrocités continuent et les gens continuent à mourir. Et vous comprenez que ici, on a l'impression que l'état de siège n'a pas été préparé, ou alors que l'état de siège n'a pas encore commencé, parce que tel que nous on s'attendait au résultat de l'état de siège, tel que nous demandions cet état de siège, ce n'est pas le résultat auquel nous sommes en train d'assister. Malheureusement, cela est accompagné justement par beaucoup de médiatisation, alors qu'il n'y a pas d'offensive. Il y a des positions des ADEF qui sont bien identifiées, bien cartographiées, et par les civils et par les militaires, mais qui n'ont jamais subi aucun assaut pour les détruire. Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 243 victimes de ces atrocités depuis les début de l'état de siège, seulement pour le Nord Kivu. S'il faut ajouter les victimes de l'Ituri, on pourrait aller au-delà des 500 victimes que nous venons de perdre depuis que l'état de siège a commencé. Cela signifie qu'il y a eu des erreurs dans l'organisation de cet état de siège et l'honorable aille à le souligner. La première erreur, c'est la forte médiatisation de cet état de siège, des opérations militaires qui sont annoncées. La population fait confiance aux forces armées de la République et à force de donner plus de confiance à ces opérations qui du reste ne vont même pas commencer, cette même population devient victime des effets d'annonce parce qu'elle pense qu'elle est sécurisée, qu'elle est en train d'être défendue pendant qu'elle ne l'est pas encore. Ça c'est la première erreur que notre gouvernement est en train de commettre, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on parle des radios phares d'essai, alors qu'on attend les phares d'essai sur la ligne de front et non sur les voies médiatiques. La deuxième erreur, c'est que on n'a pas fait un état des lieux préalable de la zone où on devait mener les opérations de l'état de siège. C'est là peut se justifier par le fait de constater que l'état de siège est étendu sur l'ensemble de la province, alors que l'épicentre de l'insécurité est localisable. On va nommer des gouverneurs, plutôt des administrateurs militaires à Warikale, alors que Warikale est plus ou moins stable,
va les nommer même dans d'autres entités qui sont éloignées de, des entités où il y a une insécurité grandissante.
Mais on a nommé aussi là, à Beni.
Oui, justement, cela ne permet pas à ce que les actions soient concentrées. La troisième erreur, c'est du côté de notre Parlement. Au niveau du Parlement, on n'a jamais voté une loi qui définit clairement les attributions, les responsabilités des gouverneurs, des administrateurs des territoires, des maires de ville ou des bourgmestres militaires ou policiers. C'est pourquoi, justement, comme l'a dénoncé les députés, on va retrouver les gouverneurs sur la ligne des assistances humanitaires, sur la ligne de mobilisation de recettes, sur la ligne de mobilisation des travaux communautaires, sur la ligne de sensibilisation contre COVID-19. Il est vrai que c'est important, mais ça ne devrait pas être dans les attributions des personnes qui ont été nommées pour une situation spécifique. Et la quatrième erreur, c'est du côté du gouvernement. Notre gouvernement n'a pas alloué les moyens à ces opérations, à ces programmes de l'état de siège. Et aujourd'hui même, jusqu'à l'heure où nous parlons, on n'a jamais désigné le coordonnateur national du programme DDRCS, alors qu'il y a des combattants qui sont en train de se rendre. Et maintenant, quand ils se rendent, alors que le programme n'a pas encore commencé, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et une autre erreur, c'est que le chef de l'État, qui lui-même a constaté qu'il y a des mafias au sein de notre armée, qu'il y a des gens qui détournent les fonds de l'armée, des gens qui le trompent, mais malheureusement, il n'a jamais procédé à la relève des militaires qui sont sur le terrain, comme nous l'avons toujours demandé, mais non plus n'a jamais puni tous ceux qui sont en train de le tromper ou de détourner les moyens de
l'État. Les enquêtes sont encore en cours pour établir les responsabilités.
Justement, on devrait déjà procéder à ce genre d'activité pour établir les responsabilités et la justice serait déjà mise en activité pour que tous les auteurs de toutes ces mafias soient déférés devant la justice et qu'ils puissent répondre de leurs actes et permettre à ce que les opérations puissent continuer à bonne et due forme pour permettre à ce que la population soit sécurisée.
Et donc, et bien, ma question, est-ce qu'on peut dire que, selon vous, trois mois après l'instauration de l'état de siège, la situation reste toujours précaire, la situation sécuritaire dans les deux provinces?
Plutôt, la situation est devenue pire qu'avant, parce que les statistiques que je vous ai données, c'est un score qu'on n'avait jamais atteint depuis que, avant l'état de siège, il y a lieu que le repose la question aux députés, par exemple, qui sont en train d'accorder des prolongations à prorogation. Parce que, normalement, l'état de siège, constitutionnellement parlant, c'est pour 30 jours. Et au bout de 30 jours, à principe, les responsables devraient venir dire aux députés, dire nous sollicitons une prorogation parce que voici ce que nous avons fait et voici ce que nous ne sommes pas arrivés à faire. Mais on accorde une prorogation sans connaître quel résultat on a sur le terrain, sans connaître ce que l'on demande encore de nouveau à aller faire ou à aller améliorer. Et donc, nos parlementaires sont aussi et partie prenante de cette situation.
On accorde une prorogation
sans faire l'étude du milieu et comprendre qui sont en train de déstabiliser la région. Il est vrai qu'on cite les ZADF qui doivent être traqués. Il est vrai qu'on cite les groupes armés qui doivent être traqués. Mais on ne parle pas de cette population qui s'est installée à Tchabi, qui s'est installé à Boga.
Merci Edgar Makeso. Les auditeurs sont très nombreux à appeler sur notre standard à Yobangira Safari. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
C'est Fatia Kenga depuis la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi.
Je suis très d'accord avec ces députés qui conditionnent la prochaine prorogation par une évaluation. Car c'est beau et bien que le président obtienne les avis favorables des élus du peuple. Mais une remise en cause s'avère importante sur les résultats de l'état de siège. Nous craignons fort que l'essor de l'état de siège soit comme celui des mesures barrières et couvre-feu qui sont tombées caduques sans que l'autorité qui avait pris ces mesures les lève. Avant même l'expiration de ces 15 jours qui leur est accordé, j'aurais souhaité que les deux chambres se réunissent pour constituer une commission mixte pouvant déjà évaluer les actions en cours avant même sa fin, car attendre pour constituer cette commission à la fin les obligerait à leur accorder une autre prorogation avec ou sans les résultats attendus.
Ayobangira Safari, brève réaction.
Bon, effectivement, il y a eu un problème, je pense, au niveau même de la chronologie. Il fallait que l'état de siège soit précédé par les mesures. Donc les mesures que nous demandons actuellement, la logistique et, tout, et les fonds, ce sont des mesures qui devaient en fait précéder même la déclaration de l'état de siège. Donc c'est une chose que, c'est vrai, on ne peut que regretter, mais vu la gravité de la situation, vu la souffrance des populations, nous ne pouvions que encourager et soutenir l'état de siège. Mais là où je ne suis pas d'accord avec notre ami de la société civile, M. Edgar, c'est dire que la situation s'est empirée. Non. La situation du point de vue des sécuritaires, on ne peut pas dire qu'elle s'est empirée par rapport à avant. Non. Mais par contre, on peut dire qu'il n'y a pas eu des avancées significatives telles que nous nous attendions. Parce que là où on dit au niveau des démobilisés, il y a eu 100 qui se sont y rendus, oui. Mais il y en avait déjà 4000 qui sont partis encore en brousse. Donc ce n'est pas ça vraiment le résultat que nous voulions. Nous attendions que la logistique puisse y venir avant. Mais rien n'est encore, il est trop tard. Nous espérons que le gouvernement, sincèrement, il va se mettre en place et mettre en place et nous envoyer des signaux réels et sur terrain, qu'on sente que réellement ils prennent à la mesure de la gravité de cette situation, que ça soit à Beni et en Ituri. Il ne faut pas que les militaires qui sont là pour faire la guerre ne soient embrouillés par d'autres activités qui relèvent purement de la vie civile.
Maître Jacques-Né Chabani, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu.
Oui, c'est Patrice Komugisa de Goma, dans les provinces du Nord Kivu. Depuis l'instauration de cet état d'urgence, aucun résultat palpable de réaliser sur terrain. Les plus graves encore est que la situation devient de plus en plus déplorable qu'auparavant. La route Luna commande à fermer pour les sécurités. Des villages vidés de leur population, d'Alirumu, Djougou et Beni, de Thierry chaque jour, de Goma et ses environs, comme piste de solution. L'armée doit être plus à l'offensif au lieu de négocier avec les rebelles, car dit-on, la meilleure défense à l'attaque.
Maître Jacques Machabani.
Non, je comprends les réclamations et la position que prennent nos frères et sœurs qui vivent au quotidien les affres de ces tueries. Mais je crois qu'à Goma, par exemple, nous avons tous ensemble enregistré une différence au niveau sécuritaire. Avant l'état de siège, c'était pratiquement tous les jours que un ou deux cambistes se faisaient attaquer, égorger ou tuer par balle en plein centre-ville. Mais si vous regardez les statistiques, cette situation a changé. Et il y a bien d'autres exemples.
Pas en Ituri, parce qu'il y a un auditeur qui nous écrit depuis Bounia, Timothée, Atido, qui dit ceci: pendant l'état de siège, les tueries continuent à se faire voir dans la province de l'Ituri et meurtrent des cambistes en plein marché central dans la ville de Beni, mais les militaires ne font que fouetter la population qui ne respecte pas le couvre-feu.
Il faut arriver aussi à comprendre que nous avons affaire à une guerre asymétrique. C'est le cas, par exemple, dans la région du Grand Nord et de l'Ituri, avec les Adef Nalou, qui malheureusement ont réussi aussi à vivre au sein et dans la population, ce qui veut dire que nos forces armées ont des difficultés encore à les cerner et à savoir réagir dans ces cités-là. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a associé à toutes ces opérations militaires la sensibilisation, la mobilisation, le dialogue, le rapprochement avec les différentes couches de la société pour que les gens se parlent et les gens puissent conscientiser les nationaux, les fils du pays qui, pour une raison ou une autre, ont pris les armes. C'est pour ça qu'il y a cette radio des forces armées congolaises qui communique, qui parle, qui sensibilise les différentes couches sociales sur ces questions, sur la nécessité non seulement de la paix, sur la nécessité du désarmement, sur la nécessité de vivre dans une certaine quiétude, de laisser les armes et d'aller au travail. Donc c'est l'association de toutes ces initiatives avec le DDRC qui va nous amener à un résultat.
Merci Maître Chabani, Diamate Soya, Fikiri Chomba depuis Bukavu qui dit ceci, l'objectif de l'état de siège était d'arrêter les massacres, mais comme les massacres ne finissent pas, on ne voit plus l'importance de ces derniers. Je suis du même avis que ces députés qu'on devrait évaluer sont complaisants sur l'état de siège avant tout prorogation, sinon nous risquons de nous retrouver dans un cercle vicieux des prorogations en prorogation sans que rien ne change sur le terrain. Brève réaction.
Oui, nous sommes d'avis avec cette évaluation. Nous l'avons longtemps réclamé, nous le souhaitons. Mais au-delà de l'évaluation, il faut ajouter la relève des militaires mafieux que le chef de l'État a pu dénoncer, parce que lorsqu'ils ne sont pas relevés de la région, cela expose la population. À la fois, la population peut subir des représailles des ADF qui doivent être traqués, mais aussi des militaires qui s'écoutent, qui se rencontrent humiliés. Et alors, à ce moment-là, la population peut subir justement les représailles de ces deux côtés. Au même moment, comme nous étions en train de le souligner, il faudra que le Parlement arrive à déclarer, à proposer une loi qui déclare cette zone sinistrée. Et à ce moment-là, on pourrait demander à ce que, par exemple, la population soit plus ou moins allégée de certaines responsabilités fiscales, et cela permettra à ce que les autorités qui ont été nommées puissent se concentrer rien que sur la justice et non se préoccuper de la mobilisation des recettes de l'État, encore que nous avons des services d'assiettes qui peuvent s'en occuper.
Merci Edgar Matesso. Ayobani Rasafari, nous sommes à la fin de notre émission. Ça sera votre conclusion. Au cas où, après l'évaluation de la quatrième prorogation, il n'y a toujours pas de résultats palpables sur le terrain, quelle sera votre réaction, vous députés?
Nous voulons que le gouvernement puisse imposer la paix. Le gouvernement ne doit pas caresser les gens selon leur sens ou pas. Non. Le gouvernement est là pour imposer la paix et la paix doit être là, effective pour tous, toutes les communautés. Toutes les communautés ont besoin de paix. Il n'y a pas une communauté qui veut la guerre ou une autre qui ne veut pas. Toutes les communautés, toute la population, que ce soit au niveau des Beni, que ce soit au niveau des Massis, que ce soit au niveau des Routour, des Tour et des Djougou, des Rumu, toute la population ne veut que la paix et on n'entend que ça. Que le gouvernement, il nous a demandé un texte et un cadre juridique qui est l'état de siège, on a accepté, et c'est maintenant à lui de mettre les moyens qui sont à la hauteur de ce qu'il nous a l'aurait demandé. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on va faire peut-être les choses dans le sens inverse. On a décrété l'état de siège et la logistique suivra. Donc il faudrait qu'on puisse voir que réellement la logistique suit afin que les populations puissent trouver une quiétude, puisse vivre en paix.
Merci.
Au lieu de les laisser entretenir des climats de méfiance entre elles.
Maître Jacquemin Chabani, votre conclusion.
Un mot d'espoir. Je crois que le plus important a été ce courage de prendre cette décision d'état de siège et de lancer nos forces armées congolaises dans cette dynamique de reconstituer la paix face à toutes ces forces négatives. Il faut aussi intégrer le fait que cela est associé avec un programme et des initiatives de dialogue et de rapprochement communautaire, de savoir vivre ensemble, parce qu'il y a aussi cette réalité-là dans cette partie-là de la République, que les différentes communautés arrivent non seulement à se respecter,
mais à vivre ensemble et comme cela a été dans le passé.
Merci.
Je reste convaincu que c'est une question de temps et que cette initiative du président de la République atteindra ses objectifs de paix et de sécurité pour l'intérêt non seulement de la nation congolaise, mais surtout des populations de la partie orientale de la République qui vont très bientôt retrouver la paix et la sécurité.
Merci, Maître Jacques Chabani. Edgar Matesso.
Oui, en fait, nous avons tous besoin de cette paix. Je voudrais demander aux autorités locales, notamment le gouverneur militaire, avec toute sa chaîne de commandement, que au-delà des évaluations qui doivent être menées par les parlementaires, il faudra qu'on arrive à créer un cadre d'échange permanent entre les autorités militaires de la place et les acteurs de la société civile à tous les niveaux pour évaluer. Et cela permettra qu'on soit à mesure de savoir comment les opérations sont en train de se mener.
Merci à Guillaume Matesso, Dialogue en Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Donna Madimba, Martin Sebouchangwe, Polidor Basunga, était à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.